Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en ce début du 15e siècle, lorsque Sainte Jeanne d'Arc fait son entrée dans la vie publique de notre pays, la France est aux abois. Cette dernière paye les infidélités de ses rois envers le Saint-Siège, et tout spécialement de la lutte de Philippe le Bel contre Boniface VIII. Alors que la mission de la France et de ses rois a été depuis le commencement de protéger politiquement le siège de Pierre pour lui assurer son autonomie doctrinale, nos rois voulurent déplacer le séjour des papes en terre de France, à Avignon, pour les avoir sous leur contrôle. Le châtiment fut épouvantable. La papauté retenue à Avignon correspond au règne de Philippe de Valois et du roi Jean, ainsi qu'aux terribles défaites de Crécy et de Poitiers, où la chevalerie française fut à chaque fois décimée. Puis ce fut le grand schisme. Il eut lieu pendant la période la plus désastreuse de notre histoire, celle du règne du roi Charles VI le Fou. Et ce fut à Azincourt, une de nos plus grandes défaites au cours de laquelle périrent 6 000 chevaliers. Les Anglais tuèrent tous les prisonniers. Selon le mot de Jeanne, Dieu, pour punir les péchés des hommes, permet la perte des batailles. Le traité de Troyes, 5 ans plus tard, en mai 1420, statuait que désormais la France serait pour toujours une des provinces de l'Angleterre. Paris avait été prise 1 an auparavant. L'agonie de la France commençait, une désespérante décomposition gagnait tout le parti national, qui ne respectait plus son chef. Celui-ci, sans expérience, n'était entouré que d'intrigants ambitieux, se disputant les lambeaux d'un pouvoir à la dérive. La dernière résistance sérieuse semblait devoir finir avec la chute imminente d'Orléans. C'est dans ces circonstances que dès 1424, notre Seigneur Jésus-Christ envoyait Saint-Michel visiter une petite fille de 12 ans vivant aux confins du royaume en Lorraine. L'archange lui apparut pendant 5 ans en compagnie de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite pour faire l'éducation religieuse de cette petite fille. Saint-Michel lui parlait de la pitié qui était en royaume de France et l'assura de par Dieu qu'elle était destinée à relever le pays de ses ruines. Quand Saint-Michel lui ordonne de quitter sa famille et de partir, elle n'a que 17 ans. Mettre l'envahisseur en déroute lui fut beaucoup plus facile que de se faire accepter de ceux qu'elle venait relever et conduire à la victoire. Car il lui fallut des mois pour triompher de l'incrédulité du lieutenant du roi Baudricourt, du roi lui-même et de la cour, des docteurs et des guerriers, et enfin se faire accepter. 3 jours, par contre, lui suffirent pour mettre en pièces l'imprenable ceinture de fortifications et de redoutes qui entourait Orléans. Il avait fallu 7 mois aux Anglais pour édifier cette ceinture de fortifications. Quelques semaines après, en 8 jours, la jeune paysanne s'empare de Jargeau, Main, Beaugency, et elle inflige à l'armée anglaise, pourtant réputée invincible en rase campagne, la désastreuse défaite de Patay. Elle ne perd que 3 hommes et en tua ou fait prisonnier 5 000, parmi lesquels les chefs les plus renommés du parti anglais. Jeanne conduit alors le dauphin à travers 80 lieues d'un pays ennemi, hérissé de forteresses et de garnisons anglo-bourguignonnes, sans férir le moindre coup, pas un seul combat, jusqu'à Reims, où elle fait sacrer le roi et le fait couronner. La France se relève enfin. Il y a dans cette histoire de la Pucelle une marque divine tout à fait exceptionnelle et qu'on ne retrouve point ailleurs. Sainte Jeanne d'Arc est absolument unique en son genre. Nous venons en effet de voir son parcours, la délivrance de la France, fait inexplicable, sans un secours tout particulier de Dieu. Cependant, à y regarder d'un peu plus près, c'est toute la vie de la Pucelle qui resplendit d'un cachet vraiment surnaturel. Et si en elle, comme en tous les saints, les vertus morales et théologales ont brillé d'un éclat vraiment particulier et lui ont mérité d'être canonisées, il y a toutefois plus en elle. Toute sa vie, en effet, est un décalque de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme notre Sauveur, elle a eu une vie cachée. Ce fut à Don Rémy, qui fut pour elle un autre Nazareth, et où le ménage de Jacques d'Arc, son père, fut le reflet de celui de Saint Joseph. Foi patriarcale, pauvreté, travail et pureté, saintes affections. Son entrée dans la vie publique, comme pour notre Seigneur, fut soudaine. Et l'étonnement général qu'une paysanne pût être envoyée de Dieu pour sauver la France nous renvoie au mot de l'Évangile. N'est-il pas le fils du charpentier ? L'épopée guerrière de Jeanne, qui conduisit le dauphin à Reims pour être sacré, nous rappelle les trois années d'enseignement de Jésus qui se conclurent par son entrée triomphale à Jérusalem le jour des rameaux. D'ailleurs, ces deux parcours s'achèvent de la même façon, par la trahison et par l'emprisonnement. À ce moment-là, les ressemblances deviennent presque de l'identité dans de nombreux détails. Cochon, qui était évêque de Beauvais et qui condamna Jeanne, n'est pas tant une copie qu'une résurrection de Caïphe. Il est lettré comme Caïphe, grand et solennel clerc de l'Université de Paris, si turbulente et infatuée d'elle-même comme l'était la synagogue au temps de notre Seigneur et encore aujourd'hui. Caïphe avait acheté la charge de grand prêtre à prix d'or et en échange de sa docilité envers Rome. Cochon arrive aux hautes dignités ecclésiastiques en se vendant corps et âme, d'abord à la maison de Bourgogne, puis ensuite à l'Angleterre, qui ne comptera pas de partisans plus dévoués que cet évêque félon. Cochon respire envers Jeanne la même haine de Caïphe envers Jésus. Beauvais, à l'approche de Jeanne, s'est déclaré pour Charles VII et a chassé son évêque de ses murs, dehors. Un de ses neveux dira au procès de réhabilitation que sa haine de la Pucelle fut chez lui un ressentiment personnel, profond, patent à tous les yeux. Cochon comme Caïphe cherche à couvrir son crime du voile de la légalité et surtout du zèle de la sainte foi. Mais tous deux ne respectent aucune loi. Cochon juge sans juridiction une cause qui a déjà été jugée à Poitiers par de nombreux évêques, dont l'archevêque de Reims, le propre métropolitain de Cochon. Et Jeanne y a été reçue comme l'envoyée de Dieu. De plus, quand Jeanne en appellera au concile et au pape, il entrera en fureur et défendra d'écrire l'appel. Jeanne est encore l'image de son Seigneur comme victime sur le bûcher, qui fut pour elle sa croix. Car, comme le lui ont dit ses voix, il faut qu'elle entre en paradis par grande victoire. Car la place du vieux marché de Rouen est bien un autre calvaire. Les Anglais mirent la même brutalité à attacher la victime au poteau que les Juifs avaient mis à conduire le maître à sa croix et à l'y clouer. Dans son supplice, Jésus pardonne. Jeanne fait de même sur le bûcher. Jésus excuse ses bourreaux. Jeanne demande pardon, même aux Anglais et à Cochon, si elle les a injustement offensés. Notre Seigneur a prié son Père sur la croix. Jeanne, pendant qu'on l'attache au bûcher, invoque la Vierge, Saint Michel, ses saintes. Et lorsque les flammes l'enveloppent, les yeux fixés sur la croix, que deux dominicains maintiennent à la hauteur de son regard, elle ne sait plus que répéter le nom de son fiancé, Jésus, Jésus. Ce cri si pénétrant fendait le cœur de l'immense assistance. Même ses bourreaux pleurèrent, même Cochon pleura. Dernière similitude. Au calvaire, notre Seigneur, déjà mort, subit un dernier outrage. Le centurion ouvrit son cœur d'un coup de lance. À Rouen, le cœur de la Pucelle est le seul organe qui sortit intact du bûcher. Le bourreau chercha en vain à le consumer par le feu. Rien n'y fit. Petit miracle. Les Anglais finirent par le jeter dans la Seine avec les autres restes de la Sainte. Pourquoi de telles ressemblances ? Fallait-il, pour délivrer la France, de telles marques surnaturelles ? En fait, la mission de Jeanne d'Arc ne s'est point bornée à un exploit guerrier. Elle a avant tout, proclamé les caractères surnaturels de la constitution politique de la France. Elle les a mis en relief, elle les a rajeunis. Elle a ainsi confirmé ce qu'il y a de surnaturel dans notre vieille histoire. Gentil dauphin, vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France, disait-elle au futur Charles VII. La Bienheureuse a été envoyée pour rappeler et confirmer par le miracle de son existence, par toute sa vie, cette doctrine, clé de voûte de l'ordre social, doctrine d'ailleurs qui s'étend à tous les pays, au-delà de la France. Tous les potentats de tous les pays doivent être, devraient être, les lieutenants du Christ Jésus, ses représentants, ceux qui font sa volonté, dont l'action est inspirée de la doctrine de leur roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va de soi, par suite, que les athées sont absolument incapables de percer la nature réelle de la Pucelle et ne peuvent en réalité que la profaner. Regnum meum non est hinc, non est de hoc mundo, répondit notre Seigneur à Pilate. Mon royaume n'est pas d'ici, il ne vient pas de ce monde. Et cependant, il s'étend sur ce monde, comme une préparation à celui du ciel. Ici, vous avez une grande erreur des modernistes. Notre Seigneur n'a pas dit que son royaume n'était pas sur ce monde. Il a dit qu'il ne venait pas de ce monde. Il vient d'en haut, mais il s'étend jusqu'ici. Et il doit s'appliquer ici-bas, venant d'en haut. Ceux qui méconnaissent cette vérité, même s'ils se disent catholiques, considérant la foi comme une affaire privée, sont incapables, absolument incapables de comprendre le rôle de la Sainte Libératrice. Il y a d'ailleurs, dans l'histoire de la Pucelle, un fait tout à fait caractéristique qui nous montre que sa mission dépasse de loin la simple libération de la France de ses envahisseurs de l'époque qui étaient les Anglais. Pour bien prouver au roi qu'il n'est que le lieutenant du Christ, elle fit cette demande extraordinaire au dauphin. C'était à Chinon. Gentil roi, il me plairait, avant de descendre dans le cercueil, d'avoir votre palais et votre royaume. Réponse du dauphin. Ô Jeanne, mon palais et mon royaume sont à toi. Et la Pucelle inspirée ordonne à deux notaires, « Notaire, écrivez, le 21 juin, à 4 heures du soir, l'an de Jésus-Christ 1429, le roi Charles VII donne son royaume à Jeanne. Écrivez encore, Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Et ensuite, d'une voix très forte, elle dit ceci, « Nos seigneurs, à présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. » Cet acte authentique est d'une importance capitale dans l'histoire de France. Et il était la raison des voix de Jeanne d'Arc. C'est pour arriver à cet acte qu'Orléans fut délivré et que la royauté, un moment comme anéantie, fut à nouveau sacrée à Reims. Et qui n'a pas compris cela n'a rien compris à l'âme de Sainte Jeanne d'Arc. Malheureusement, la France n'a pas été fidèle à sa mission. Conséquence, nous avons été à nouveau châtiés et plus durement qu'auparavant. La Révolution dite française, tous les échecs consécutifs de redressement national. Dieu, pour punir les péchés des hommes, permet la perte des batailles militaires, des batailles politiques. Et la conséquence, regardez, tous les chefs qui se sont proclamés du parti du bien depuis la Révolution sont de plus en plus mauvais. C'est un fait. Cependant, ne perdons pas courage et rappelons-nous ce que disait Saint Pie X, reprenant les paroles du cardinal Pie. Seigneur mon Dieu, vous avez créé la France pour l'Église et jamais la France n'abdiquera entièrement sa mission. C'est la mission de la France, la protection de la Sainte Église. Et Saint Pie X continue, tandis que comme Saül, respirant encore les menaces et le carnage sur la route de Damas, tu sembleras lancé peut-être dans la voie de l'impiété et de la violence. Tout à coup, une force secrète te renversera. Une lumière subite t'enveloppera et une voix se fera entendre. « Qui êtes-vous » t'écriras-tu. « Je suis Jésus que tu poursuis et que tu persécutes. Ô France, il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. Faire la guerre à Dieu n'est pas dans ta nature. » Relève-toi, race prédestinée, vase d'élection, et va, comme par le passé, porter mon nom à tous les peuples et à tous les rois de la terre. Tout cela, mes bien chers frères, doit nous inciter à beaucoup prier, à demander ce retour politique de la France à sa mission, en dehors de laquelle la France n'est plus la France. Dieu n'a pas, en effet, envoyé Sainte Jeanne d'Arc sans que les Français ne fissent rien. Partout en France, que de prières, que de pénitences. Combien de pèlerinages les Français ne firent-ils pas pour toucher le cœur de Dieu ? Pour nous, il n'en sera pas autrement. Il nous faut, nous aussi, toucher le cœur de notre Seigneur, vrai roi de France, par notre prière, nos supplications, une vraie fidélité dans le service de Dieu, dans les petites choses. Travailler à notre petit niveau, au redressement de la France. Eh bien, chers frères, quand vous prenez tous ces mystiques du XIXe siècle, reconnus par l'Église, les vrais, par exemple, Sœur Marie de Saint-Pierre, qui a reçu la flèche d'or, carmélite de Tours, notre Seigneur lui a demandé de prier pour la France. La France est encore chère au cœur de Jésus. Le bon Dieu attend nos prières, réclame nos prières. Puis Sainte Jeanne d'Arc et tous les saints de France nous obtenir cette grâce d'une résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.